Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a ceux comme Serge Lama, sans trahir de secret, qui semblent voir les petites femmes de Pigalle. Et ceux, avant lui, qui choisissaient le luxe feutré d'une maison close dans le centre de Paris. C'est dans ce lieu, propice à tous les plaisirs, tenu par Marguerite Gourdan, que pénètre à présent Stéphane Bern. On vous suit, Stéphane, on vous suit pour découvrir la vie étonnante de cette entremetteuse du XVIIIe siècle.
Il fait si chaud à Paris en ce début de juillet 1783. Fiévreux, l'abbé de V prend sa plume et note. Je me ressens des chaleurs excessives de la saison et mes feux sont très considérables. J'irai les éteindre demain chez vous entre 10 et 11 heures. Je veux entrer par la porte de derrière. Pensez à m'avoir du joli. Le libidineux ecclésiastique ne s'adresse pas à sa maîtresse, non. Il écrit à Madame Gourdan. Marguerite Gourdan, son nom ne vous dit sans doute rien, mais il a été fameux dans le Paris de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La Gourdan, comme on dit familièrement, est l'une des plus grandes entremetteuses de son temps, si incontournable qu'elle a hérité du surnom de surintendante des plaisirs de la cour et de la ville. Les éléments manquent sur sa biographie. Elle serait née Marguerite Stock vers 1730 à Béziers. Elle arrive à Paris très jeune, en compagnie d'un officier, mais l'affaire ne dure pas. À 18 ans, Marguerite épouse un certain François-Didier Gourdan, qui lui donne son nom pour la postérité. La jeune femme exerce plusieurs métiers, dans le commerce de tabac et comme marchande de mode. Déjà, on lui prête, je cite, « une vie déréglée », ce qui semble confirmer une relation avec un officier aux gardes dont elle tombe enceinte. Une petite fille naît. Son géniteur dédommage Marguerite en bijoux et lui alloue une rente annuelle. Avec cette petite fortune, et parce qu'elle semble connaître le milieu, Marguerite Gourdan ouvre, alors que la loi l'interdit pourtant, un premier établissement de prostitution, rue Sainte-Anne, en 1759. Elle n'a pas 30 ans. Un auteur anonyme qui prétend l'avoir connue décrit sa figure qui, sans être jolie, avait ce piquant qui usurpe les droits de la beauté, et ajoute toute sa personne inspirait un air de volupté qui appelle et commande le désir. À l'occasion, Marguerite peut s'occuper elle-même d'un client, mais son ambition est bien plus grande. Elle a le sens des affaires et entend régner sur la capitale. Une lettre d'un milord anglais prouve sa réputation et ne laisse pas de doute quant à son rôle actif dans le commerce des femmes. Comme j'ai ouï dire, madame, que vous connaissez toutes les demoiselles de Paris, je vous prie de m'en tenir une toute prête pour mon arrivée.
C'est pratique, ça.
Voici comme je la veux. Âgée de 16 à 18 ans, blonde de 5 pieds 6 pouces, taille svelte, les yeux bleus et langoureux, la bouche petite, la main jolie, la jambe fine et le pied mignon. Les prostituées recrutées par Marguerite sont des filles du peuple, domestiques, blanchisseuses, qui font face à des difficultés financières, ou bien des filles de plus haut rang qui gravitent dans les milieux du théâtre et de l'opéra. Celles-là servent d'escorte et ne travaillent pas forcément dans la maison close de Madame Gourdan, qui les met simplement en relation avec les hommes chez qui elles se rendent. En 1763, Marguerite ouvre une nouvelle maison, rue Comtesse d'Artois, toujours à Paris, d'où vient sans doute son autre surnom, la Petite Comtesse. 2 ans plus tard, elle obtient la séparation de biens avec son époux et peut enfin mener sa barque entièrement seule. Mais quelques années plus tard, le bordel est détruit par un incendie et sa patronne est envoyée à l'hôpital de Bicêtre, là où séjournent les filles atteintes de maladies vénériennes, là où l'on enferme les prostituées, les indésirables. Mais la Gourdan ne cède pas au désespoir. Là-bas, elle rencontre Justine Paris, une autre grande maquerelle, et les deux s'entendent si merveilleusement qu'elles décident de faire affaire. En 1773, elles ouvrent ensemble, toujours dans le même quartier des Innocents, une maison à l'angle de la rue Saint-Sauveur et de la rue des Deux-Portes, une rue qui s'est appelée au XIIIe siècle la rue Gratte-Cul, avec une prostitution déjà très présente dans le quartier. Justine meurt très rapidement de la syphilis et Marguerite ne cherche pas de nouvel associé. La maison acquiert une solide réputation parmi la haute société parisienne ou de passage. À l'arrivée de Madame du Barry à la cour, les rumeurs attribuent d'ailleurs l'éducation de la dernière favorite de Louis XV à Madame Gourdan. Les clients sont aussi des femmes venues vivre leurs amours homosexuels à l'abri des interdits. Au rez-de-chaussée, un tranquille antiquaire dissimule un escalier secret dans son arrière-boutique qui permet d'entrer incognito dans la maison. Il mène au vestiaire, pièce où l'on peut se changer pour ne pas être connu. À l'aide d'un cordon et après entretien avec le visiteur, la mère Maquerelle prévient la fille choisie. Au besoin, la maison fournit des déguisements pour qui veut jouer un rôle, devenir valet ou se faire bourgeois. Une pièce dédiée, l'infirmerie, propose à ces messieurs de soigner leurs pannes intimes en regardant des gravures obscènes. Le cabinet de bain, lui, garantit l'hygiène des prostituées. Sur ce sujet, Marguerite Gourdan est intraitable. D'ailleurs, elle a consigné la plupart de ses préceptes et de ses règles dans un recueil très explicite. Pour le centre de la volupté, on doit souvent rafraîchir les charmes. L'amour ne veut pas que son dard se plonge dans la fange. Ah, vous avez compris.
Oui, je crois que j'ai compris, Stéphane. J'adore l'accent que vous prenez pour imiter Madame Gourdan.
C'est Madame Gourdan un peu prude.
Oui, oui, c'est ça.
La mère Maquerelle délivre aussi des conseils plus stratégiques aux filles qui veulent réussir dans le milieu. Affectez toujours le grand plaisir dans l'amoureuse jouissance, quand même vous seriez insensible. Il faut savoir se porter au goût bizarre des hommes. Mais avant, montrez un peu de répugnance et faites croire en cédant que c'est par amour. Voilà le grand art. Madame Gourdan est la figure incontournable de la prostitution de luxe parisienne et sa maison est au faîte de sa gloire. Mais quand on exerce la profession de proxénète, il faut s'attendre à quelques péripéties. En septembre 1775, une bien fâcheuse nouvelle parvient à Marguerite Gourdan. Si elle a toujours réussi à échapper à la police, cette fois, un arrêt ordonne la prise de corps de Marguerite Gourdan, c'est-à-dire son arrestation pour une sombre affaire d'incitation à la débauche. Marguerite Gourdan sait qu'elle est en fâcheuse posture. En quelques heures, elle licencie son personnel et prend la fuite. Si l'on en croit une chronique de l'époque, la mère Maquerelle est condamnée par contumace à être conduite par les rues de son quartier, montée sur un âne, visage tourné vers la queue avant d'être battue en public. Comme elle est absente, la sentence est tout de même exécutée et c'est un mannequin de paille qui la remplace. Malgré tout, Marguerite décide de rentrer à Paris et de se constituer prisonnière seulement 2 mois plus tard. Elle peut compter sur un certain nombre de personnalités de la cour qui témoignent en sa faveur. Les poursuites sont abandonnées. Le lupanard de la rue des Deux Portes peut rouvrir. Et le business reprend de plus belle. « J'ai à votre service, madame, écrit un fournisseur, des boules chinoises, des vies postiches, des godemichés à seringues et à pistons, des martinets à clous. Si quelques-uns de ces articles vous conviennent, répondez-moi par le porteur. » Hélas, pour la petite comtesse, les maisons concurrentes n'ont pas sagement attendu son retour. Elles se sont au contraire attachées à conquérir le cœur des clients abandonnés en leur offrant de meilleures prestations. Petit à petit, les plus belles filles et les plus fortunés clients partent chez la Brissot ou chez la Montigny. Et puis, Louis XV est mort et son successeur n'a pas son goût de la débauche. Une ère nouvelle de mœurs plus austères s'ouvre. La cour, pour plaire à Louis XVI, se réfrène. Les affaires déclinent, mais Marguerite Gourdan survit jusqu'à ce jour de novembre 1783 où, sortant de souper, elle tombe malade et meurt subitement. On présume, raconte la même chronique, qu'elle pourrait bien avoir été empoisonnée. Les rapports qu'avait cette appareilleuse avec ce qu'il y a de plus grand la mettaient dans le cas de se faire beaucoup d'ennemis. Et de ce mystère-là, voyez-vous, Mathieu, on ne saura jamais rien.
Europe 1, historiquement vôtre.